טוב, ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם. On revient dans notre étude du livre de Shemot. Et nous sommes arrivés, Beshaa Tova, Perek, Yudbet, c'est cela. J'aurais pas dit mieux. Pasuk, Yudbet, Yudbet, c'est bien, c'est beau. Ça, c'est pas mal. Ok. Ben ça va. Donc, on arrive à la soirée tant attendue. Ça y est, Dieu nous a bien dit, bien clairement expliqué, que on allait devoir prendre notre agneau, l'accrocher au lit pendant 4 jours, et finalement, eh bien, je reprends le verset Yudalef, « V'kacha tochlu oto motnechem chagurim na'alechem v'raglechem v'aklechem v'idchem » ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לשם. Ok, ce corban Pesach, donc on sait qu'on va le manger, et on le sait 4 jours avant. Donc on avait dit la semaine dernière, on avait parlé de cette légende, qu'on mange de la matzah parce que la pâte n'a pas eu le temps de lever. Aré Baro, que 4 jours, ça suffit pour faire une pâte. Hein, largement. Alors venez, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Ve'avarti be'eretz Mitzrayim ba'layla hazeh ve'iketi kol bechor be'eretz Mitzrayim me'adam ve'at be'ema u'bechol Elohim Mitzrayim me'eseh shefatim ani Hashem. Donc là, Dieu dit clairement, il va se lancer dans la dernière plaie. On avait expliqué, quand on avait dit tout le déroulement des 10 plaies, quels étaient les arguments à chaque fois amenés. Là, le dernier argument possible et imaginable, puisqu'on était déjà revenu à la création du monde, c'est, oui, mais est-ce que Bareshit, c'est-à-dire, sauf Maase Bemarchava Techila, avant même l'acte créateur, dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'était d'abord Israël ou d'abord l'Égypte? Donc on va voir quel Reshit est frappé. Donc ici on nous dit, va avarti Be'eretz Mitzrayim Balayla Azeh, Ve'iketi Kol Bechor Be'eretz Mitzrayim, Me'adam Vad Be'ema, Ubechol Elohim Mitzrayim Me'eseh Shefatim, Ani Hashem, Ve'aya Adam. לכם לאות על הבתים, אשר אתם שם וראיתי את הדם, ופסרתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית והקותי בארץ מצרים. Quels sont les בכורות visées durant ma quatre בכורות? Oui, mais lesquels?
Tous,
c'est-à-dire?
Les Égyptiens?
De tout le monde, y compris des Juifs. Y compris des juifs. Là, on nous dit, Ve'avarti be'eretz Mitzrayim ba'layla hazeh ve'iketi kol bechor be'eretz Mitzrayim. Où tu vois sauf les juifs?
Pourquoi il frappe pas les juifs?
Ça, c'est une bonne question. Mais d'abord, c'est ce qui a marqué dans le verset. Dans le verset, il y a marqué qu'il va frapper tous les premiers-nés en terre d'Égypte. Ah, il a fait. Donc ça veut dire que... Pas encore, ça va venir, bien sûr. Mais c'est le verset d'après. Il nous dit, le verset d'après, « Ve'aya adam lachem le'ot al-abatim, asher atem sham, ve'raiti et adam, pasarti alechem, ve'lo yebachem negef le'mashchit, ba'akoti be'eretz Mitzrayim. » Donc, c'est pas... Là, il y a, pour la première fois dans les 10 plaies, la demande d'Akadosh Baruch Hu qu'on participe... pour décider si on fait partie de l'identité d'Israël ou pas. Ce n'est pas que Dieu il a besoin d'avoir un signe sur la porte, genre sinon je ne sais pas quelle est la porte d'un juif ou pas. C'est est-ce que toi, tu te revendiques faisant partie de l'histoire d'Israël ou pas? Le juif qui décidera de ne pas mettre le sang, eh bien il y a fort à penser que son premier-né, à lui aussi, va être frappé. Okay.
C'est le cas des 80% qui sont restés.
Certaines, très certainement.
Selon
une des explications de Rachid. C'est-à-dire qui met du sang. Bah, ça s'appelle comment un Égyptien qui met du sang? C'est-à-dire qu'il veut participer, bah, il va devenir Erebra, il va venir avec nous. Alors effectivement, il sera sauvé. Ok. Oui. Dis-moi.
Oui.
Je t'en prie.
Alors, il y a Hachem qui s'adresse à Moshe en lui disant, parle à l'Assemblée d'Israël, donc bon, il y a déjà une définition, en tout cas, à nous de donner la définition qui est Israël, Mais ensuite, le problème, c'est Erev Rav. C'est-à-dire que si finalement... Attends, deux secondes. Si, madame, on peut éventuellement envisager... si Erev Rav, les Erev Rav n'ont pas eu les bateaux tachés de sang, puisqu'ils font partie de... Comment ils ont pu sortir alors qu'ils étaient morts? Une partie des morts. Donc ils n'ont plus, donc, malgré leur mort parmi eux, ils ont pu suivre le troupeau.
J'entends très bien la question, j'ai envie de te répondre.
Ah, mais c'est bien.
Non, j'ai envie de te répondre, je ne le ferai pas maintenant, parce que j'ai envie de te répondre la réponse suivante. Ça, on verra quand Moshe s'adressera au Erev Rav.
Ouais.
Ok. Mais la question est tout à fait légitime.
Une petite question.
Oui.
Dans les 80% des Hébreux qui sont morts, on peut estimer à 60% de Erev Rav, vous dites, dans le Moshe.
Je ne sais pas d'où tu sors tes chiffres.
80% des Hébreux qui sont morts.
Je ne sais pas d'où vous sortez vos chiffres. Venez, vous savez quoi? Les 80%.
Il y a des Hébreux dans les 80% qui sont morts de
l'Hébreux. Venez. Les 80%, on va en parler dès qu'on y arrivera. Pour l'instant, on n'y est pas. Venez, on reste sur ce qu'il y a. On a déjà assez de problèmes avec ce qui est marqué, sans qu'on rentre dans ce qui n'est pas encore marqué.
Ce sera tellement marqué pour les 60%, c'est marqué.
Ah, les 60%, par contre, je ne sais pas du tout.
Ça. Ça.
Mais bon, en ce moment, avec le corona, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Donc, allons-y. Bon, y'a. Vaya yom azé lachem le zikaron, vechagotem oto chag la hachem le dorotechem, chukat olam, tachogu. C'est quoi cette fête qu'on nous demande de garder? C'est-à-dire, chaga. Pessah. Combien de temps elle dure?
14 décembre.
C'est... Donc combien de temps? 24 heures.
Même pas.
Même pas. En vrai, elle dure. C'est-à-dire qu'à partir de quand c'est Corban Pessah?
À partir demain.
Non.
Le début d'après-midi.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu as depuis à peu près Chatzot Hayom, à peu près, jusqu'à...
Jusqu'au lendemain
soir. Jusqu'à la fin de la nuit. Au petit matin, tu ne peux plus manger le Corban Pessah. Donc la mitzvah de Pessah, c'est faire le Corban et le manger. Ça fait partie de la mitzvah. Ok, donc elle va commencer à partir de l'après-midi du 14 Nissan et elle se termine à la fin de la nuit du 15. Donc c'est une fête qui dure 16 heures. Non, 18 heures. 18 heures. D'abord, tu ne fais pas 8 jours, tu fais 7 jours.
Oui,
7 jours. En route, ça arrête si tu faisais 8 jours.
D'accord, ouais.
Ah bah attends, parce que peut-être qu'il y a un verset qui vient plus tard. Deux secondes. Mais là, on nous a parlé d'une fête qui s'appelle Pessah Lachem. Et cette fête de Pessah, elle est symbolisée par le Corban Pessah. Ah, Shivat Yamim Matzot Tochelu. Là, on te dit, mais tu vas manger des matzot pendant 7 jours. Ach bayom arishon tashbitu seor mi batechem. כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש האם מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. וביום הראשון מקרא קודש, ביום השביעי מקרא קודש, יהיה לכם כל מלאכת עבודה, כל מלאכת עבודה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוציא את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. בראשון, ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות. עד יום האחד ו-20 לחודש בערב, שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכנתה נפש האם מידת ישראל, בגר ובאזרח הארץ, כל מחמצת לא תאכלו, וכל מושבותיכם תאכלו מצות. Nous avons donc une deuxième fête qui s'appelle comment? Chagamatzot. Cette fête-là, elle dure 7 jours. C'est deux entités différentes. Je vous rappelle que là, on nous donne les lois donc de Pessah. On pourra trouver du Chametz, on pourra manger du Chametz. Bali Rev, Bali Matze. On n'a pas le droit de Tchelom, Shemayavo, Le Ochlo. On n'a pas le droit ni de manger, ni de trouver. Tout ça est donné quand au Bnei Israël? Je répète qu'on est le 10.
La V.
Là, quand Dieu y parle, à Moshe. On est quand? On est 4 jours avant Pessah.
4 jours, c'est le 11.
Le 10, 11. C'est-à-dire, disons que le 10, il a parlé à Moshe. Donc vous comprenez bien que toutes les lois de Hametz, machin, sont données bien avant qu'on parte. Là, c'est normal en même temps. Parce que si on n'avait pas eu les lois, on aurait mangé, enfin, on aurait du Hametz dans nos maisons le soir de Pessah. Mais donc, vous comprenez à quel point l'idée que, bah non, on n'a pas eu le temps, et c'est pour ça, machin.
Ils ont eu que 4 jours pour faire le ménage de Pessah.
Alors, ils ont eu que 4 jours pour faire le ménage de Pessah. Sache que, halakhiquement parlant, voilà, il faut 2 jours pour faire le ménage de Pessah. Un jour dans la cuisine et un jour dans le reste de la maison. Zéou.
Ils étaient en chemin, de toute façon, ils étaient.
Hein ?
Ils n'étaient pas dans aucune maison, ils étaient en chemin.
Pourquoi ? Ils étaient
en Pessah.
Non ? Ah, tu dis quand ils sont partis ? Ah oui, mais ça, d'accord, tu as raison. Pendant le jour de Pessah, de leur Pessah à eux, ils étaient déjà sur le chameau, donc ils n'avaient plus pas grand-chose à nous donner. Mais peut-être que, halakhiquement, tu vas dire que la maison dans laquelle tu as vécu, elle est encore Bebar Aloutra. Donc tu n'as pas le droit d'avoir du Hametz dans ta maison.
Oui, mais ils ont mangé Pessah chez eux.
Eh oui, le soir, ils étaient quand même chez eux.
Je suis étonné que Dieu leur donne pas les lois de Pessah 30 jours avant.
Ah, pourquoi ? Parce qu'ils ont lu le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que c'est vrai, comment c'est possible que Dieu n'a pas lu le Shulchan Aruch, qu'il a vu que Tzarich la tril il mode et finit un chag, 30 yom. C'est bémet baïa gedola. Qu'en dirait qu'il a déjà fait un truc 30 yom avant, il faut voir.
Mais Abraham,
Abraham il faisait Pessah. Abraham il faisait Pessah,
nachon. Donc, eux, ils...
Mais certainement pas pour symboliser la fin de la sortie d'Égypte.
Non, mais eux, ça leur est pas étranger cette idée de...
Bah non, cette idée qu'on doit faire des matzot, qu'on ne doit pas manger très mais qu'on va faire le korban Pessah, que tout ça c'est pas Abraham il le faisait. Abraham, il ne le faisait pas, ça.
Non, mais l'idée des matzot, alors je sais pas.
Mais Abraham, il ne faisait pas de matzot. C'est, à la limite, c'est Lot qui a fait des matzot. Oui. C'est l'air. Mais Lot, il a fait des matzot. Mais certainement pas parce qu'on est sorti d'Égypte.
Alors, c'est quoi le...
Tu comprends que... Attends, tu comprends que Lot, il ne fait pas des matzot parce qu'on est sorti d'Égypte.
Non, mais peut-être qu'il y a des matzot.
Il n'est pas encore rentré en Égypte. Comment tu veux qu'il fasse ça pour en symbolisant la sortie d'Égypte ? Ah, pourquoi il fait des matzot ? Parce que c'est le jour où on fait des matzot.
C'est bon.
Donc, en fait, on sort le jour où il faut faire les matzot.
Bien sûr.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'était le jour des matzot bien avant qu'on sorte d'Égypte.
Voilà.
Et c'était le jour du Korban Pessah bien avant qu'on sorte d'Égypte.
Donc c'est pour ça qu'il
y a... Ah bah, Sakrishol Lama. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Oui.
C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pour tout peuple berger qui se respecte.
Si j'ai de l'autre ?
Non, pas que de l'autre. On voit que l'autre, il est un... Encore une fois, le fait qu'on lui donne des matzot, c'est après Rashi qui va nous dire, d'après Chazal, que c'était Pessah. Mais l'homme échané, Abraham, Lot, disons que c'était Pessah. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans l'année, quand tu es berger ? Je vous rappelle qu'ils sont bergers tous. C'est le moment où les agneaux, ils mettent bas. Enfin, les agneaux, les mamans d'agneaux.
Les brebis.
Ok, ouais, les brebis. C'est la hamlata. Maintenant, quel rapport ? Eh bien, comment est appelée la sortie d'Égypte, d'après la Torah ? Va'avo Elohim lakachat lo goy mikerev goy. Dieu a pris un peuple et l'a sorti d'un autre peuple. Ça s'appelle comment sortir un être vivant d'un autre être vivant ? C'est une naissance. Donc, les peuples bergers savent très bien que cette période-là de l'année, c'est le moment de la renaissance. Maintenant, pour Abraham, ça ne veut pas encore dire la renaissance nationale du peuple juif qui sort d'Égypte. Mais il comprend que c'est le moment où il faut marquer le coup. Mais Vo'azman, ça va devenir à un moment donné. Ça va devenir la sortie d'Égypte. Ok ? Donc Abraham, il a une intuition profonde, mais elle ne nous sert pas de loi pour toutes les générations. Maintenant, oui. Ok ? Donc...
On n'a pas répondu pour les matzot. Pourquoi ils avaient l'habitude de manger des matzot ?
Nakhon, j'y viens. C'est-à-dire, 2 secondes. Donc, nous avons donc deux mitzvot, deux chagim particulières, Pessah et Matzot.
Qui se chevauchent,
évidemment. Mais qui, semble-t-il, viennent répondre à deux choses différentes. Pessah, c'est pour nous séparer des Égyptiens. Chagam Matzot, c'est pour nous recentrer sur nous. Et c'est là que je vais commencer à parler de mes Matzot. Les amis, la matzah est un pain beaucoup plus ancien que le pain levé. C'est-à-dire que dans l'humanité, on a mangé des matzot bien avant qu'on sache faire du pain. Ok ? Qui est le peuple qui a inventé le pain qui a levé, c'est les Égyptiens, archéologiquement parlant. En d'autres termes, lorsqu'on te dit qu'il ne faut pas que tu trouves de Mchametz, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui a vécu chez ceux qui l'ont inventé?
Je sais pas, mais...
Tu redeviens ce que tu as été. Pourquoi Lot il faisait des matzot? Parce qu'à l'époque d'Abraham, on faisait des matzot.
Il n'y avait pas de pain.
Il y avait du pain en Égypte.
Oui.
Mais Lot, il n'était pas en Égypte. Donc nous, on mangeait de la matzah. Et après, tu peux mettre dedans toutes les drachotes qui arrivent, que la matzah, c'est l'essentiel, t'as pas gonflé, c'est pas plein d'air comme le pain, machin. Bon, c'est des drachotes sympatoches.
Alors pourquoi Shabbat, on mange du pain?
Mais voilà, pourquoi je dis que c'est des drachotes sympatoches? Parce que si tu viens et tu dis l'idéal du judaïsme, c'est la matzah, pourquoi Shabbat? Et mieux que ça, pourquoi Shavuot, tu dois faire les chamim que tu amènes au Beit HaMikdash? Tu sais qu'ils étaient pas chametz. La challah du Beit HaMikdash n'était pas chametz. Avant la Shavuot, on emmenait des chamim de chametz. Donc ça veut dire que y a pas c'est pas négatif d'avoir quelque chose de chametz. Non, c'est pas négatif à partir du moment où tu sais d'où il vient et donc comment tu peux l'utiliser. Tout ce qui vient des goyim n'est pas négatif. Absolument pas. Seulement, il faut savoir d'abord que ça vient de chez eux, il faut savoir qu'est-ce que toi tu as à proposer et comment est-ce que tu vas pouvoir prendre de chez eux quelque chose qui est positif. Ok ? Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous demande de faire pour Pessah ? On nous dit qu'il faut quoi ne pas avoir dans la maison ?
Pour Chagamatot.
Pour Chagamatot, oui, j'ai dit Pessah. Autant pour moi. Tu as raison.
Pour Pessah aussi, d'ailleurs.
Et il se trouve que pour Pessah aussi. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de ne pas avoir dans la maison ? Ben non.
Du levain.
On ne demande pas de ne pas avoir de chametz dans la maison. On demande de ne pas le manger. Ça, on a dit, on n'a pas le droit de manger de chametz. On n'a aucun moment dit qu'il fallait ne pas avoir de chametz dans la maison. Ben non. Qu'est-ce qui a marqué? Je reprends le verset, voilà. Vous l'avez bien remarqué. Je redis les versets. Voilà. Shivat Yamim, verset Tetzvav. Shivat Yamim Matzot Tochelu, Ach Bayom Arishon Tashbitu. C'est or, mi-batechem, qui kol ochel chametz, v'nichreta nefeshaim mi-erim Israël. On n'a pas le droit de manger du chametz, mais on n'a pas le droit de trouver du seor. Ok. Attends deux secondes, j'y arrive. Bayom arishon mikra kodesh, bayom arishon mikra kodesh, yelachem, kon melecha lo zeh, lo yaseh bahem, ach asher yachel, lechol nefesh, hu levado yaseh lachem, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צוותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם, לקראת עולם, הראשון, ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות, עד יום ה-21 לחודש בערב, שבעת ימים, שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכנתה את נפש האם מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ. כל מחמצת לא תאכלו, בכל משותיכם תאכלו מצות. דונק, הוא נפר עד מורג'ה לחמץ, הוא נפר עד מורג'ה נפלו, de Mahmetzet, mais il ne faut pas qu'il y ait de Seor. Alors, c'est quoi tout ça? Le Chametz, on sait ce que c'est. C'est une des cinq céréales qu'on a mélangées avec de l'eau et qui a levé. Ok. C'est quoi Mahmetzet? Non, Mahmetzet, c'est ce qui peut faire lever. Qu'on appelle aujourd'hui de la levure.
Un levain.
Un levain. Et c'est quoi Seor? Seor, c'est le levain de l'époque. C'est quoi Seor? Bien, aujourd'hui, quand tu fais ta challah, je vais me tourner vers des gens qui ont plus l'habitude, vous ne m'en voulez pas, je me tourne vers ceux qui sont des professionnels. Quand tu fais ta challah, quels sont les ingrédients que tu mets dans ta challah? Tu mets de l'eau, tu mets de la farine, je ne donne pas tous les ingrédients secrets, mais tu mets également, j'imagine, un peu de levure. Elle est chimique? Elle est levure de boulanger, elle est sèche, elle est fraîche ou sèche. Quand tu ce que tu gardes dans ton armoire, c'est de la levure sèche. Ok, c'est à vous. Ça pue ou pas? Non, la levure sèche, ça sent rien. La levure sèche, ça sent rien. La fraîche, mais qui achète encore de la fraîche? Nous. Dans tous les cas, c'est enfermé dans ton petit truc, dans ton sachet de macara. À l'époque, il n'y avait pas de supermarché. Et il n'y avait pas de sachet de levure. Donc on faisait comment pour faire lever le pain ceux qui... Mais c'est comment on fait
le
lever le pain
la veille.
Pas de la veille, de la semaine dernière. La veille, ça sert à rien.
On gardait un morceau.
Voilà, tu gardes un morceau de ce que tu as fait la semaine dernière. Il faut bien quelques jours, bien pour que tu le laisses dehors, ça devient pourri. Tous les trucs qui sont bleus, verts, jaunes sur la pâte, c'est de la, ce qu'on appelle de la pourriture. Hein. C'est des champignons de toutes sortes qui se sont là-bas. Non. Retourne faire Top Chef, toi. C'est pas possible. Non. Et là, ce truc qui est pas mangeable, ce truc qui est dégoûtant, ce truc qui pue, ce truc qui... Tu le remets dans la pâte de la semaine d'après, et c'est ça qui va faire fermenter. Qui va faire lever. Pas fermenter, lever.
C'est pareil que le vinaigre.
Oui. Bon, aujourd'hui, on a des techniques un peu moins... Mais c'est comme ça qu'on faisait. Et ça, ça s'appelle séor. Pourquoi est-ce que la Torah ne nous a pas demandé de sortir notre hametz de la maison? Parce qu'on n'en a pas du hametz à la maison. Pour avoir du hametz à la maison, il faut garder du hametz. Qui c'est qui garde du pain d'un jour à l'autre? C'est pas bon. Le pain, tu le laisses toute la nuit, machin, c'est sec, c'est pas bon, tu peux pas manger. À la limite, tu fais du pain perdu.
Il y en a qui gardent le congélateur.
Mais il n'y avait pas de congélateur à l'époque. Mais c'est pour ça que je t'explique. Aujourd'hui, t'en as plein du chametz dans tes armoires. Que ce soit dans le congélateur, t'as des pâtes, t'as des trucs. C'est-à-dire, t'as plein de choses de chametz. Mais à l'époque, ça n'existe pas d'avoir du chametz à la maison. Le chametz, tu l'as fait ce matin, il n'est plus là ce soir. Donc la Torah, elle te demande pas d'enlever ton chametz de la maison parce qu'elle sait que t'en as pas. Mais elle sait que tu as du séor à la maison qui va amener à devenir chametz.
C'est-à-dire le reste de pain, il n'a pas été mangé.
Mais il a été donné au chien, il a été donné au truc. Pourquoi tu veux le garder?
Il y a des gens qui mangent du pain sec.
Non, attends, t'as pas compris. Du pain sec, sec, hein, attention, hein, c'est sec, sec.
Il n'y a pas de dents.
Dis nous, bébé.
Sec, sec.
Quoi, du pain qui a resté le truc, qui est resté 3 jours dehors? D'abord, il n'y avait pas de café à l'époque.
Non,
c'est pas dans le lait. Nous, c'est pas parce que nous, on a des us et coutumes culinaires bizarres qu'à l'époque, ils l'avaient également. Mais qui te donc maintenant qu'on a... Oui.
On signale les 5 céréales, le levain et le séor.
Oui.
Donc, il y avait le levain et le séor.
Oui, parce que tu peux également faire...
C'est la distinction.
Parce que, tu peux faire... c'est-à-dire que le séor, c'est... concrètement ce que tu vas mettre dans la pâte.
Oui.
Maintenant, tu peux également amener une pâte à lever, pas avec du séor. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup moins utilisées, mais qui peuvent marcher aussi pour faire lever. Donc, on dit, toute marmetzette, tu peux pas. Donc, maintenant qu'on a posé les bases, bon, bah, alors très bien, Vayikra Moshe, parce que là, c'est pour l'instant, c'est que Dieu qui parle à Moshe. Donc, Vayikra Moshe, le Zikne, le Rol Zikne Israël, ויאמר עליהם, משחו וקחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח. ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם סליחה אל המשקוף ועל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מבית ביתו עד בוקר. Donc là il s'agit des indications concrètes de comment on fait la peinture. On fait avec quoi? C'est quoi le pinceau? Le pinceau. Du isobe. En français, je crois qu'on dit comme ça, vraiment du isobe. C'est ça, hein, isobe. Comment tu dis?
Isobe.
Pop, avec un P? Avec un P. Alors, isobe, mais bon, ça ressemble à un pinceau, c'est un buisson comme ça qui ressemble à un pinceau. Mais pourquoi c'est khashoub alors? Pourquoi je peux pas prendre autre chose? Pourquoi agudat isobe?
C'est un symbole.
Évidemment. C'est-à-dire qu'on est en train de faire participer la création tout entière à la Géoula. Et donc il fallait du tsomer, du végétal. Il faut que tout participe. Donc une fois qu'on est là, très bien. Velot etzum ish mipetar beto ad boker. Nous avons vécu cette année le même Pessah qu'à l'époque de la sortie d'Égypte. Parce qu'on n'avait pas le droit de sortir de nos maisons le soir du Seder ad boker. Il y avait un couvre-feu cette année. Et donc on a dû faire notre... L'aile à céder dans notre maison sans avoir le droit d'en sortir. Comme à l'époque. Hein, c'est pas mal.
Attends, ça c'est des instructions pour les Zikné Israël.
Oui. Oui, d'accord, les Zikné Israël, ils ne vont pas les garder ça pour eux.
C'est aussi pour les jeunes?
Ouais, aussi pour les jeunes. Ah, tu dis parce que c'est les Skenim, ils sont en Kfutsat Sikoun. C'est pour ça, comme ils étaient en Kfutsat Sikoun, alors on leur a dit à eux de se mettre en bidoud. Non, non. ועבר השם לנגוף את מצרים וראה את הדם אשר על המשקוף ועל שתי המזוזות ובסך השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם והיה כי תבואו אל הארץ וואו, קרה פה לא, אתה יודע, דונק פצה פוקה לנגיף יבוא פרפה אוקיי, זה סכון הביבי תתלר זה בוא? On dit, Vaya qui t'avou et la arrête, la charité n'achem lachem, qu'à la chère d'Iber ou Shmartem et ta avoda azot.
Attends, je n'ai pas compris.
Qu'est-ce qui se passe?
Ça doit être un chok à Dolam.
Oui.
De mettre.
Ou Shmartem et ta davar azé. Schéma? De quoi?
De mettre du sang?
Oui. Quel est le problème? Jusqu'à la fin des temps, ça sera un choc. Pas que nous, on doit mettre du sang. Que eux, ils ont mis du sang. C'est-à-dire que tu transmettras ça à tes enfants, à tes petits-enfants, et ainsi de suite, que Zaya choc, que Kadosh Baruch Hu nous a demandé de mettre du sang sur les murs. Parce que choc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose que si Dieu ne nous avait pas demandé de le faire, on n'aurait pas trouvé ça tout seul. À la différence de Mishpat. Ok?
Donc,
ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. De quoi? Que eux, ils ont fait ça. C'est-à-dire, tu vas transmettre ça dans toutes les générations, que nos ancêtres, ils ont mis du sang pour se séparer des Égyptiens.
Et maintenant, on met
une médouza.
Oui, mais non, c'est
la médouza
qui
dort. D'accord.
Dans quel pinel,
oui.
Ils traduisent les deux poteaux. Mezuzot, il est entendu par les deux poteaux.
Oui, mais c'est ça.
Oui. Et nous, on dit Mezuzot. Et on dit la Mezuzot sur le.
Non, c'est pas. Sur le front de
pot. J'ai pas compris, quel est le problème?
Sur le front de pot.
Je veux faire le rapport entre ce qui est écrit ici, Mezuzot, les deux poteaux, et la Mezuzot qu'on utilise aujourd'hui.
Ah non, mais attention, la Mezuzot que nous, on met sur la porte. Nous, on appelle ça une Mezuzot parce qu'on la met sur la Mezuzot.
Ah, d'accord.
Okay. Dans la Torah, hein, elle ne s'appelle pas la Mezouza. Elle s'appelle l'écrit que tu mets à la Mezouza de Betera. Tu t'es habitué à l'appeler la Mezouza parce que ce poteau-là, il s'appelle une Mezouza.
Okay.
Donc tu t'es habitué à appeler ce truc-là des Mezouza. Okay.
L'écrit que l'on pose sur les Mezouza.
Normalement, c'est l'écrit que tu poses à cet endroit-là. D'accord ? Et donc, ce qui est important, c'est le parchemin qui est à l'intérieur. Et non, parce qu'il y a plein de gens qui achètent la boîte très très jolie, mais qui ne savent pas qu'il faut mettre un truc dedans.
Ah bon?
Ah bah oui.
D'accord.
Pardon?
Si, bien sûr.
Ça, c'est le problème quand tu vis avec des religieux toute la journée. Tu n'as pas idée de ce qu'on sont prêts à faire les commerçants.
Ah, c'est autre chose.
Bah oui, mais d'accord, mais c'est parce que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais dis-moi, l'écrasante majorité des juifs, d'abord, ils ne savent pas ce que c'est des mésousotes. Et bête, même ceux qui savent, ce que c'est qu'une mezouza, oui, à l'entrée des maisons juives, il y a un truc. Ils n'ont absolument pas la conscience qu'il y a un truc dedans. Pour eux, c'est le boîtier avec le chine, c'est ça qui est mystique. Alors maintenant, très souvent, on va essayer aussi de te vendre la chose, et donc le commerçant, il a envie de te vendre plus cher. Donc il a envie de te vendre pas seulement le boîtier. Mais il veut te vendre aussi le parchemin qui est à l'intérieur. Seulement, il ne va certainement pas aller l'acheter chez un sofer. Ça va lui coûter beaucoup trop cher. Donc, il te l'imprime. Et il te le roule à l'intérieur. Il te dit, regardez, vous pouvez acheter sans ou avec. C'est pas le même prix, évidemment. Et la personne, il ne connaît rien. Elle ne sait pas qu'elle est à la rose.
Et
c'est
celui qui
ne
veut pas payer plus cher, il garde que le
parchemin.
Il
n'a
jamais
un
beau parchemin.
Non, mais il ne sait pas.
On a eu ça une fois. On a découvert qu'il y avait une... C'est du papier là, vous avez dit qu'elle était
vérifiée. Vaya ki yomru alechem benechem, ma avoda azot lachem. Quand tes enfants ils viendront te demander, ma avoda azot lachem, et c'est avoda. Korban Pesach. Yen avoda c'est korban. Ma avoda azot lachem, va amartem, zevach Pesach ou lachem. אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים ונוקפו את מצרים ואת בתינו הציל ויקוד העם וישתחוו. דונק הכו יסר לקורבן פסח. מה נדי? à montrer notre appartenance au peuple juif et à montrer notre désappartenance à l'Égypte. וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואהרון כן עשו. Donc on est prêt, ça y est, on peut arriver à la soirée. Oui?
Non, c'est une question, mais la différence qui existe entre, là, on parle d'Avoda, en français, il traduit par rite, bon, on parle de Zikaron, et je veux savoir où on place les idoutes.
Les idoutes? Bah, je ne sais pas si c'est vraiment...
Je veux dire, parce que, voilà, pourquoi je pose la question? Avec notre rabbin, on étudie le Maseret, le livre, de Yeshua. Et dans Yeshua, on parle de également de Zikaron. C'est également quelque chose de concret. C'est les pierres qui sont posées sur les jardins, chose qu'on pourrait peut-être voir éventuellement, si on les... Bon, ça peut se trouver éventuellement. Et à Gilgal aussi. Donc, il parle de Zikaron, de quelque chose de vraiment de concret. Là, c'est pas concret. Là, on se rappelle un événement. Ah bon, bah, c'est pas concret.
C'est concret tous les ans.
Il n'y a pas une stèle, il n'y a pas quelque chose.
Mais il y a mieux qu'une stèle. Il y a tous les ans, tu prends ton animal et tu vas le chriter pour ça. Il n'y a pas plus concret que ça.
Oui, mais non, mais je veux dire que les pierres dont on parle, c'est des pierres qui avaient été posées à l'époque de Yeshua.
Ben d'accord. D'abord, aujourd'hui, tu ne les trouveras pas non plus. Tu ne les trouveras plus, les pierres de Yoshua.
Pardon ?
Tu ne les trouveras plus, les pierres de Yoshua.
Oui.
C'est-à-dire, donc, on s'en fiche. Elles sont quand même les Zikaron. Pourquoi est-ce qu'elles sont les Zikaron ? Évidemment, pour les générations qui étaient juste après Yoshua, on pouvait les voir, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, pourquoi elles sont les Zikaron ? Parce que c'est marqué dans le Tanakh qu'elles sont les Zikaron. C'est-à-dire que tu te rattaches à un événement passé. Comment ? Ben, en allant sur l'endroit, en essayant d'en parler, machin. Pareil ici pour le Korban Pessah. Il n'y a pas plus Zikaron que de faire le Korban Pessah tous les ans. Le problème, c'est ce qui se passe quand on ne fait plus le Korban Pessah.
C'est pour ça. Maintenant, c'est au sujet des choix qu'on parle de Zikaron aussi.
En fait, quand on fait aujourd'hui Pessah sans Korban Pessah, on fait Zecher la Zikaron.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est bien malheureux. C'est malheureux. C'est très malheureux. Bezrat Hashem, l'année prochaine, on fera le Korban Pessah pour de vrai. Amen. Donc maintenant, on peut commencer la soirée. Ça y est. Alors, c'est parti. ויהי בחצי הלילה והשם היכה כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כיסו עד בכור השביעי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה ויקום פרעה לילה אומנם ידלמי פרעה מסולב הוא וכל עבדיו וכל מצרים ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין שם מת יפאין מזון יביפה דמור. Bon, le Midrash s'en donne à cœur joie. Hein. Ça dit que même les maisons, dans les maisons dans lesquelles il n'y avait déjà plus de premier-nés, eh bien, tout ce qui appartenait était un souvenir du premier-né, eh bien, était attaqué, machin. Bon, ça veut dire... Oui, oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Bémet, on peut comprendre, c'est quelque chose qui va remplir toute l'Égypte. Toute l'Égypte. Et donc, va yikra le Moshe ole Aaron laila. ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל לכו עבדו את השם כדברכם גם צונכם גם בקרכם קחו כאשר דיברתם ולכו וואלה וברכתם גם אותי אלא אם אפלח אנחנו קומכם on est en plein milieu de la nuit, la dernière plaie se réalise, Pharaon arrive chez Moshe ve'Aaron. Alors, c'est-à-dire, encore une fois, le Midrash, il adore cette partie-là. Et effectivement, il se passe des choses. Le Midrash nous donne des informations incroyables. Pas seulement comme ma fille Hogan a appris que Ben Tsa Laila paro be pyjama. C'est-à-dire, Cholot qu'il était en pyjama, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il dit à Moshe et à Aaron, partez. Quand ? Maintenant ! On sait qu'ils vont partir que. Le matin. Donc le Midrash, puisqu'ils doivent combler les 6 heures, il dit que Moshe lui a répondu. Il dit non, il est hors de question qu'on parte comme des voleurs. On partira demain matin. Mais par contre, si tu veux que la plaie s'arrête, Enbaria, tu dois nous libérer maintenant. Si tu nous libères maintenant, On part demain, mais la plaie s'arrête. Mais attention, hein, faut que ce soit officiel.
Mais je comprends pas la plaie s'arrête. Si déjà tous les premiers nés sont morts, la plaie s'arrête, ça veut dire quoi ?
La plaie s'arrête, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être qu'en l'occurrence, ils avaient peur que... Dis-moi toi.
Que tout le monde.
Qu'il y en ait d'autres qui prennent sur la tête. Oui, mais il n'a pas été censé être inquiété. Puisqu'on dit que c'est mi bechor paro à Yoshev al Kiso. Alors, tu as totalement raison de mettre l'accent sur le fait que les premiers-nés, s'ils sont déjà morts, ils sont déjà morts. Mais n'oublie pas qu'il y a autre chose qui frappe avec Akadosh Baruch. Il y a ce qu'on appelle la mashrit. C'est-à-dire que lorsque Akadosh Baruch Hu se déchaîne sur les premiers-nés, il y a aussi le mashrit qui frappe. C'est celui qui fait mal. Celui le destructeur. C'est bien, ça, comme, ça fait très film de... Le destructeur arrive.
Exterminator.
Voilà, c'est Terminator qui arrive. C'est-à-dire, donc c'est... Quand la destruction, elle arrive, ben, ça prend des trucs, des dommages collatéraux.
Ah, voilà.
Alors c'est les dommages collatéraux qu'on a peur qu'ils continuent et qu'on veut arrêter. Et donc Moshe, il dit, libère-nous maintenant. Et là, le Midrash, il dit que Paro, il a ouvert un groupe WhatsApp sur toute l'Égypte. Tous les citoyens égyptiens étaient branchés sur WhatsApp. Et il a dit, « Itril Paro tsover veomer » Paro a dit clairement pour tout le monde, « Leshe'avar aitem avadim li, ve'achav areatem birshut atzmechem, ve'are avadav shel hakadosh baruch hu atem. » ועליכם להללו, הללויה, הללו עבדי השם. Avant, vous étiez mes sujets, mes serviteurs. Maintenant, vous êtes indépendants. Et donc, vous êtes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est à vous de lui dire le hallel. Hallelujah, hallelu, avdei Hashem. Quand on dit le hallel, on commence avec cette phrase-là. Hallelujah, hallelu, avdei Hashem. Il se trouve que le premier de l'histoire qui a dit le hallel, c'est donc Pharaon. Parce qu'il faut comprendre que cette phrase, elle veut dire quoi ? Alléluia, Allélu, Avdé Hachem. Que fasse le Hallel, les Avdé Hachem. Mais on parle à quelqu'un. Donc ça veut dire que qui a dit cette phrase ? Pas les Avdé Hachem. Parce que sinon, ils auraient dû dire, faisons le Hallel. Si là, on vous dit, faites, c'est qu'on parle à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que le premier qui a dit cette reconnaissance du Hallel, c'est bel et bien Akadosh, pour Akadosh Baruch Hu, c'est bel et bien Pharaon.
Donc, il reconnaît la...
Alors, c'est exactement de cela qu'on parle. C'est-à-dire qu'on a dit que pendant toutes les plaies, il fallait le convaincre que c'était légitime qu'Am Israël soit celui qui dévoile Akadosh Baruch Hu et pas lui. Tant qu'il n'est pas convaincu, il n'est pas convaincu. On a dit que sa dernière carte, c'était Bechorot, c'est-à-dire la Réchit. Il voit que bah, même là, c'est fini. Et donc, à ce moment-là, il dit « Uberartem gam oti ». C'est assez étonnant parce qu'il sait depuis le début qu'il n'y aura pas de 11e plaie. Puisque dès le début, quand Moshe est venu le voir pour la première fois, il lui a dit « Ou tu laisses partir mon peuple, ou anori oreg et bincha bechorecha ». C'est-à-dire qu'il sait que le maximum qui puisse arriver, c'est makat bechorot. Donc, il n'a pas de danger pour la suite. Mais il les laisse partir parce qu'effectivement, enfin, il reconnaît qu'Israël est Mekor Abracha. Ou Berartem Gam Oti. Il voit maintenant le peuple juif comme étant la source de bénédiction.
Je pense que la peur de l'insurrection des Égyptiens.
C'est... Justement, il a contenu l'insurrection des Égyptiens. Les Égyptiens, on a dit avant. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas attaqué les Israël quand ils ont pris le bélier, machin, ils s'étaient déjà insurgés.
Maintenant, il a peur que le s'insurge contre lui, contre Pharaon.
Qui va s'insurger ?
Les Égyptiens. Toutes les familles qui ont plus de premier-né.
Ouais.
Peuvent faire la révolution.
Et le fait de faire partir les Israël, ça va empêcher l'insurrection ?
Ben oui, parce que ça va arrêter le...
Mais il sait que de toute façon, il n'y aura pas plus.
Oui, c'est
pas les... peut-être qu'il leur a dit aux Égyptiens. Dans tous les cas, si les Égyptiens ils sont énervés contre lui, le fait que les Israéliens partent, ce n'est pas ça qui va les calmer.
Il est convaincu.
Mais il est convaincu.
Là, c'est pas par peur, en fait.
Non, c'est pas du tout par peur.
S'il avait eu peur, il se serait arrêté avant.
Non, c'est pas du tout par peur. Il est convaincu.
Il est vraiment,
vraiment convaincu.
On
De quoi?
Après, il va quand même les poursuivre.
Eh ben, quand je serai après, je pourrai t'expliquer.
Mais malheureusement, je le sais. Donc là, ça me semble pas juste.
D'accord.
Ouais.
Tu me laisses, s'il te plaît, ne pas te répondre. Tu me laisses ne pas te répondre, s'il te plaît. Quand on y arrivera, on verra pourquoi il semble changer d'avis.
Mais là, il est sincère.
Là, il est sincère. Il est même mâche sincère.
Il demande d'être béni.
Parce qu'il voit maintenant dans le peuple juif la source de bracha.
C'est comme Esav
qui demande. Exactement. Hein? Il est sincère. Mamash. Ok? Donc Bémet. Mais attendez. Donc de là on apprend. On a dit que le Hallel a eu lieu en premier lieu par Pharaon. Ok? Et il a eu lieu quand? Quand? Le premier Hallel. Le premier Hallel de l'histoire. Il y a eu lieu quand? Là, le soir de Pessah. C'est-à-dire? Non, pourquoi le 14? Le 15. Mais la nuit. Bah, c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire le Hallel le soir de Pessah.
Dans la Gada.
Non, non, non.
Oui, les Yakim. Qu'est-ce que je te dis? Les Yakim, ils ont un problème. Qu'est-ce que je te dis?
Ah, ils le font pas?
Non, parce qu'ils se fient au Hallel de la Gada. Mais le reste des autres traditions d'Israël disent non, l'Hallel de la Haggadah, on ne fait pas la bracha d'abord, donc ce n'est pas le vrai Hallel. Donc ils le font à la synagogue. Oui, c'est Monday. Donc ça veut dire que.
Ils ne font pas le soir, ils font le lendemain matin.
On fait aussi le lendemain matin. La majorité des synagogues font le Hallel à la fin de la tfila du soir de Pessah, du premier soir de Pessah.
Généralement, les femmes ne le savent pas en général.
C'est vrai qu'en général, elles ne sont pas vraiment là. Mais attendez. Donc ça veut dire qu'on fait le Hallel le soir. Quand il s'agit de la Géoula. Et quand le miracle a eu lieu le soir. C'est-à-dire quand la Géoula a eu lieu le soir. Donc à Pessah, Dieu nous a libérés par l'intermédiaire de Pharaon le soir.
Pas politique.
Donc non. Donc on fait le Hallel le soir de Pessah. De la même façon, le Hallel de Yom HaAtzmaout, bah c'est le soir et le matin. Parce que la Géoula a eu lieu le soir. Non ? Bah si. Bah, la déclaration, c'était pas le soir. C'était à 4h d'après-midi. Hein ? C'était à 4h d'après-midi. Avant, la déclaration ne constitue pas l'indépendance de l'État d'Israël. Quand Ben Gurion il dit Nachnom Machrezim Bazat, je fais bien. Hein? Nous déclarons par la présente à la Kamat Medina Yehudit Eretz Israël. Et Medina Israël. Il y a une suite au texte et il y a un avant au texte. C'est-à-dire qui est moins connu. Mais il est clairement stipulé que l'État d'Israël prendra fait et cause Bessiyum Amandat Abriti. C'est-à-dire Bechatzot Alayla. À minuit.
Le 6, il y a.
Donc entre le 5 et le 6.
Non, le
6.
Le 6. En plein
minuit. Hein ?
En plein
minuit,
le
6. Oui, le 6, il y a. Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, on dit le Hallel le soir.
Avec bracha, la dure noire.
Bah, sinon, ça ne s'appelle pas le Hallel. Et je ne rentre pas dans la marloquette, ouais. Et je sais qu'il y a plein de rabbins qui disent qu'il ne faut pas.
En France, c'était des grosses discussions, oui, non, oui, non.
Quelle France en Israël,
c'est aussi une discussion. Non. Mais Kitzour, alors c'est bon, on est prêt, on va partir.
On peut sortir.
Hein?
Vas-y.
On y va.
Ben ouais, ça y est, on y va. On est bon, on est presque bon nous aussi. Donc là, tout va bien, on va partir. Uberachtem gam oti. Vatechezak mitzraim ala am le maher le shalecham mina aretz ki amru kulanu metim. Aha. Donc, va te chézak mitzraim à la am. Le maher le shalecha mina aretz. L'Égypte a pressé le peuple de partir parce qu'ils ont dit nous mourrons tous. Mais le peuple qui est pressé par l'Égypte de partir, s'il s'agit des Bnei Israël, ils sont à Goshen. Ils ne sont pas vraiment reliés aux Égyptiens. Mais et puis, si je ne me trompe pas...
Ils ne sont,
sont pas tous à Goshen, pourtant on les a présentés comme tels pendant les diplômes. C'est-à-dire que l'essentiel du peuple juif, il est à Goshen encore, même s'il y en a qui se sont mélangés. Et puis, deux secondes, on est après les directives de Moshe qu'il a données au peuple juif quant à la soirée de Pessah. On les a déjà reçues. On est bien d'accord. Puisque c'est le soir même, là. On est le soir même. Donc comment ça se fait que Vaïssa Aham et Betseko?
Ils avaient peut-être pas fait le Korban Pessah.
Azob le Korban Pessah. Là, on nous dit, dans le verset Lamed Dalet, que le peuple a pris avec lui sa pâte. Je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans une famille juive le jour de Pessah, et je ne connais pas beaucoup qui se chauffent à faire de la pâte pendant Pessah. Certes, la pâte, elle n'est pas encore chametz, mais dans 18 minutes, elle le sera. Donc, comment ça se fait que la pâte, elle est dans les mains du Ham? C'est qui ce Ham qui est pressé par les Égyptiens de partir? On a commencé un petit peu à le spoiler, on le spoilera et on l'expliquera à fond la prochaine fois, et peut-être qu'enfin on comprendra c'est qui a vraiment pas eu le temps de faire lever son pain, mais ça on en parlera la semaine prochaine.
Alors,
est-ce que un petit peu sur notre...
Ah bah...